Décryptage, Nathalie Amar.
L'Équateur peut-il être l'exception qui confirmera la règle? En tout cas, au premier tour de la présidentielle, Lénine Moreno, le candidat socialiste, héritier politique de Rafael Correa, frôle les 40% des suffrages qui auraient été synonymes de victoire immédiate. Et cela alors qu'en Amérique latine, on le sait, depuis la fin 2015, la gauche recule. En mai dernier, en entamant sa dernière année au pouvoir, Correa avait annoncé devant le Parlement une très rude bataille avec la droite pour le pouvoir.
Hasta entregar el gobierno. Va ser un año muy duro en lo humano.
Jusqu'à la succession, disait-il alors, l'année va être très dure sur le plan humain, politique, international. L'opposition va tenter de mettre à profit les difficultés économiques et la féroce offensive de la droite internationale pour revenir au pouvoir afin de nous mener au néolibéralisme et de nous ramener au passé. Lénine Moreno a promis de poursuivre la révolution citoyenne engagée par Rafael Correa, mais le pays est en crise car si à Quito, comme à Caracas, la gauche bolivarienne au pouvoir a fait beaucoup pour le développement, pour la redistribution. Elle se heurte aujourd'hui aux limites d'un système corrompu et hyper dépendant du pétrole. Gauche latino-américaine, est-ce la fin d'un cycle? C'est dans Décryptage ce soir. Bienvenue. Bonsoir Gaspard Estrada.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous êtes le directeur exécutif de l'OPALC, Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Un mot d'abord du résultat de ce premier tour. On n'aura rien de définitif avant jeudi, disent ce soir les autorités à Quito. Mais finalement, Lénine Moreno fait relativement un bon score, non ?
Oui, il fait un bon score. Il frôle donc cette qualification au premier tour. Le problème, c'est que cela pose un problème politique tant pour le gouvernement que pour l'opposition, dans le sens où on s'attendait à un résultat tranché dès dimanche soir. Or, aujourd'hui, on voit bien dans la presse équatorienne et surtout dans les réseaux sociaux qu'il existe une polarisation politique entre d'un côté les défenseurs du gouvernement et de l'autre les membres de l'opposition. Chacun espérant que le scénario soit le plus favorable pour le candidat de leur camp, c'est-à-dire concrètement que Lénine Moreno soit élu président dès le premier tour, parce que la loi électorale lui permet d'obtenir ce résultat s'il obtient plus de 40%.
Et 10 points d'écart avec son adversaire.
Voilà, et dans le cas de Guillermo Lasso, donc le leader de l'opposition, il espère aller jusqu'au deuxième tour.
Alors ça va se jouer à un cheveu, hein, 88,7% des bulletins dépouillés, dit le Conseil National Électoral ce soir, hein, 18h temps universel. Lénine Moreno a 39,13% des voix face à Guillermo Lasso qui en obtient lui 28,3. Est-ce qu'à l'heure du bilan, finalement, de ces 10 années de pouvoir de Correa, eh bien, les Équatoriens ont aussi réfléchi à ce qui avait changé dans le pays? Est-ce que c'est ça qui explique aussi ce score relativement haut de Lénine Moreno?
Oui, je pense que, et d'ailleurs, je pense que c'était aussi la stratégie de campagne de Lénine Moreno, c'était d'associer justement le bilan de Rafael Correa, ces 10 ans de révolution citoyenne, en tout cas c'est comme ça que le gouvernement le surnomme, cette période de gouvernement, avec des progrès sociaux, vous l'avez souligné, une chute des inégalités, une croissance économique qui a existé, mais aussi des conditions plus défavorables ces deux dernières années, notamment du fait, un, de la chute du cours du pétrole, et deux, en fait la conséquence d'une économie dollarisée, dans le sens où l'Équateur n'a pas de monnaie propre, le cours est le dollar. Et donc de ce point de vue-là, lorsque le dollar est élevé, cela se traduit mécaniquement par une perte de compétitivité de l'Équateur vis-à-vis de ses voisins andins.
Mmh, mais on voit bien à la fois les progrès, hein, un PIB qui a été multiplié par deux pendant ces 10 années de présidence, hein, de 51 à 100 milliards de dollars, l'indice de pauvreté qui a chuté de près de 37% à 25%. On voit donc ces progrès et on voit en même temps la fragilité de ces progrès, l'endettement du pays, l'hyperdépendance aux revenus pétroliers.
Alors je pense que c'est à double tranchant. Je pense que Rafael Correa a voulu justement utiliser la manne pétrolière, non pas pour grossir des comptes en banque, mais pour que les Équatoriens aient justement des dividendes concrets de cette manne. Et donc, de ce point de vue-là, c'est difficile à reprocher justement à Rafael Correa aujourd'hui de dire vous avez dépensé cet argent justement pour résorber la dette sociale et d'essayer de réduire les inégalités criantes qui existent dans ce pays. Mais d'autre part, il est vrai que malgré les efforts de diversification entamés par le gouvernement équatorien, notamment en ce qui concerne la production d'électricité, mais aussi en ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, l'Équateur a beaucoup investi dans l'enseignement supérieur, notamment en créant une ville universitaire, Yachay, où il a même promu justement la répatriation d'universitaires équatoriens qui excellent
à l'étranger. Les cerveaux au pays.
Exactement. Mais malgré tout, on voit bien que malgré ces efforts, cette économie reste dépendante des matières premières et elle ne peut pas s'extraire des mouvements du commerce international. Et aujourd'hui, l'Équateur en paye le prix.
Moreno a dit en tout cas qu'il voulait construire sur le déjà construit, c'est-à-dire en gros continuer la politique de Rafael Correa. Il faut peut-être rappeler, Gaspar Estrada, à ce stade, l'ampleur de cette vague de gauche qui a soufflé sur l'Amérique latine au début des années 2000 et peut-être même avant avec l'élection de Chavez en 1998.
Oui, je pense que c'est assez clair aujourd'hui que sur le plan politique, il y a en effet un essoufflement des gouvernements qui étaient en place pendant les années 2000. J'aurais plutôt une distinction à faire, disons, j'aurais plutôt une objection à dire qu'il s'agissait là d'un rejet de la gauche. Je pense qu'il s'agit aujourd'hui plutôt d'un effet lié à une érosion mécanique du pouvoir avec une région qui subit justement les effets de cette crise économique, une région essentiellement structurée économiquement par l'exportation de matières premières à l'exception du Mexique. Et donc, il y a un phénomène d'alternance comme dans toute démocratie. Il se trouve qu'il s'agissait là de gouvernements positionnés à gauche, mais si ça avait été des gouvernements plutôt de droite, cette alternance, elle aurait aussi pu avoir lieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve au niveau local. Il y a des gouvernements de droite qui ont perdu des élections.
Sauf que ces pouvoirs-là ont suscité dans la dizaine de pays qui ont basculé à gauche à ce moment-là, des espoirs peut-être démesurés d'ailleurs, mais des espoirs immenses au sein de la population. On a vu arriver au pouvoir d'anciens guerrilleros, d'anciens leaders syndicaux. Ça a été quand même un vent d'espoir extraordinaire.
Oui, ça a été un vent d'espoir extraordinaire, surtout parce que les leaders, et je pense que la notion de leadership est très importante aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on constate à l'inverse plutôt un manque de leadership politique en Amérique latine. Je pense que pour la première fois depuis très longtemps, les leaders qui étaient aux commandes étaient le reflet de leur société. Au Brésil, vous aviez Lula, un ancien ouvrier syndicaliste, qui a fait de la lutte syndicale un instrument justement pour obtenir le pouvoir. Vous avez eu au Paraguay un prêtre, Lugo, qui était au pouvoir. Vous avez eu un militaire, Chavez, qui a été au pouvoir au Venezuela. Vous avez eu Morales, un ancien ouvrier, paysan syndicaliste
en Bolivie.
Et donc, de ce point de vue-là, pour la première fois, vous voyez des dirigeants qui ressemblaient à leur peuple. Et ça, c'était une vraie nouveauté en Amérique latine. Une Amérique latine qui, historiquement, avait toujours été gouvernée par ses élites. Et de ce point de vue-là, elle se trouve là, la rupture. Mais maintenant, la question, c'est de savoir quel sera le fruit politique de ces mouvements en tant qu'opposition, et c'est là où se trouve le débat.
Des présidents issus du peuple, Gaspar Estrada. Alors l'Équateur a été un des derniers à entrer dans cette vague de gauche en 2007 avec l'élection de Correa. C'était juste après l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales en Bolivie, celle de Pepe Mujica en Uruguay. Qu'ont-ils en commun finalement tous ces présidents de la gauche latino-américaine des années 2000?
Je pense que en premier lieu, ils ont ces origines.
Alors, ils ont cette ressemblance avec la population, oui.
Tout à fait. Deux, une volonté réelle de diminuer les inégalités sociales, de mettre au cœur de l'agenda public la question des inégalités, de la lutte contre la pauvreté, de faire en sorte de faire rentrer les pauvres dans le budget de l'État, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec un accent très fort qui a été mis sur les politiques sociales, sur le développement de ces mesures, et aussi un discours latino-américaniste dans le sens où toutes ces luttes, que ce soit politiques, syndicales, agraires, ont été aussi le fruit de combats politiques qui se sont étendus en Amérique latine depuis la transition à la démocratie, c'est-à-dire depuis les années 80. L'arrivée de Lula au pouvoir, c'est le fruit de 30 ans de lutte du Parti des travailleurs dans l'opposition, donc depuis 1980. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle étape où ces mouvements reviennent en quelque sorte dans l'opposition, avec aussi une nécessité de changer, de modifier, de renouveler leur discours politique, avec aussi des sociétés latino-américaines qui ont évolué.
Est-ce qu'à être près du peuple, ils n'ont pas péché par populisme, Gaspar Estrada? Je pense évidemment à Chavez, mais c'est pas le seul. Ce sont des personnalités très fortes, souvent assez autoritaires, et qui souvent usent du populisme, il faut le dire.
Oui, usent du populisme, mais aussi en fonction du contexte. Un contexte où, vous l'avez souligné, ces pays vivent dans des inégalités sociales très criantes, avec un manque d'institutionnalisation des sociétés. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, c'est quand même assez important, et je pense que c'est important de le souligner, qu'en Équateur, vous aviez un président qui aurait pu être candidat à la réélection, qui a décidé de passer la main malgré...
Après deux mandats, effectivement.
Voilà. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose de positif. Je me souviens qu'à l'époque, au Brésil aussi, Lula, en tout cas certains de ses sympathisants, avaient essayé de changer la constitution pour qu'il puisse se représenter. Il ne l'avait pas fait. Alors malheureusement, cela s'est traduit par un exercice du pouvoir plutôt... maladroit de la part de la présidente Dilma Rousseff qui a abouti à sa destitution. Mais malgré tout, je pense que l'élément central de tous ces gouvernements, c'est qu'ils voulaient mettre en avant la démocratie.
Il n'y a pas eu de miracle économique équatorien. D'abord parce qu'en économie, les miracles n'existent pas. Ce qu'il y a eu, c'est un prix du pétrole élevé et un surendettement agressif qui nous a donné la sensation de bulle, qui nous a fait croire que l'économie allait bien. Mais à la fin, ce qui nous reste, c'est la déception.
Au micro d'Éric Sanson, c'était Luis Espinosa, professeur d'économie à l'Université San Francisco de Quito, évoquant donc la déception des Équatoriens. On pourrait aussi, et peut-être encore davantage, parler de celle des Vénézuéliens, qui sont confrontés depuis des mois à des pénuries dramatiques. Gaspar Estrada, indépendamment de la chute des cours du pétrole, comment expliquer que ces pays n'aient pas poursuivi, n'aient pas achevé le travail de développement et de redistribution?
Non, parce que les défis sont tout d'abord immenses. On part de situations d'inégalité qui ne se retrouvent nulle part ailleurs dans le monde. L'Amérique latine est le sous-continent des inégalités. Et donc ça, c'est vraiment la première donnée à avoir à l'esprit, avec aussi avec la temporalité des mandats. S'il s'agit on l'a souligné ici, de mouvements qui accédaient pour la première fois à la présidence de la République. Donc ces gouvernements ont donc dû apprendre à gouverner, parce que justement, elles n'avaient jamais eu l'expérience du gouvernement, et tout cela prend du temps. De ce point de vue-là, l'Amérique latine eut une période bénie, donc les décennies 2000, avec une croissance économique tirée par une demande chinoise qui, à l'époque, était
très... Qui les a
portées. Voilà, ouais. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, la Chine croît à un rythme moins important et l'Amérique latine n'a pas réussi à réellement diversifier son économie et elle en paye le prix.
Vous parlez de l'apprentissage du pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la déception des Équatoriens et des autres une dimension liée à la corruption? On l'a vu avec le scandale Petrobras au Brésil, mais en Équateur même, le scandale Odebrecht a peut-être aussi contribué à la désaffection des électeurs?
Oui, je pense que ça, c'est une nouveauté en Amérique latine de manière générale, c'est que les sociétés civiles se mobilisent sur la question de la corruption. Malheureusement, la corruption n'est pas une nouveauté, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, mais la nouveauté, c'est que les sociétés civiles, pour la première fois, se mobilisent, protestent et... réussissent même à faire tomber des gouvernements. Je pense notamment au cas du Guatemala, où le président en exercice a dû démissionner avec sa vice-présidente pour une affaire de corruption. Donc ça, je pense qu'il s'agit d'un élément positif qui est lié aussi au fait que les sociétés latino-américaines ont mûri. Elles ont aussi, durant ces 10 dernières années, accédé à de nouveaux services, parce qu'elles ont quitté pour une certaine partie la pauvreté absolue, l'extrême pauvreté. Donc ça, il s'agit d'un point positif. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les vices liés au pouvoir n'ont pas été en quelque sorte mis de côté par les dirigeants de gauche. Je pense que, en quelque sorte, les dirigeants de gauche avaient un rêve et ils sont rentrés dans la réalité de la politique politicienne. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont des politiciens parmi d'autres, mais ils ne se distinguent plus par rapport à l'élite politique qui a toujours gouverné l'Amérique latine.
Est-ce que la gauche bolivarienne, la version donc qui a fait le succès des Morales en Bolivie ou des Correa en Équateur, a encore un avenir d'après vous, ou est-ce que c'est vraiment une page qui se referme?
Non, moi je pense que je sais pas si c'est une question d'avenir, je pense que ce qu'il y a là aujourd'hui, la vraie question, c'est quel sera le personnel politique qui va justement défendre ces idées-là. Je pense que ces idées de redistribution, d'investissement dans le social, de croissance économique aussi, parce qu'il s'agit là de gouvernements qui ont beaucoup misé sur la croissance économique, peut-être aux dépens de l'écologie, et ça c'est une des critiques qui sont faites justement au gouvernement, je pense notamment en Bolivie ou au Brésil. Ce discours-là, il est encore plus d'actualité. Pourquoi ? Parce que l'Amérique latine reste inégale, parce que la pauvreté, non seulement elle existe, mais elle a tendance à se développer du fait de la crise économique et de l'implantation de mesures d'austérité. On le voit très clairement au Brésil, avec des indices de pauvreté qui redécollent. Je pense que le discours, il est là. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une nouvelle génération. Et c'est un peu ce qu'a essayé de faire Rafael Correa en désignant un dauphin justement pour poursuivre cet agenda politique.
Pour revenir à l'Équateur, il y aura donc un deuxième tour vraisemblablement. Enfin, c'est encore le suspense est encore à peu près total jusqu'à jeudi, mais il pourrait donc y avoir un deuxième tour en mars. Que va faire la droite ? Que vont faire les 7 candidats de droite du premier tour face à Lénine Moreno ? Est-ce qu'ils ont donné des indications là-dessus ?
Bon, très clairement, dès dimanche soir, la candidate qui arrivait en troisième position, Cynthia Vitelli, qui est membre de l'élite de Guayaquil, donc dans la région côtière d'Équateur, a appelé à voter pour également Lasso, donc le candidat qui avait en deuxième place, un ancien banquier, lui aussi de Guayaquil. Et il me semble que l'opposition aurait tout à gagner en s'alliant, en faisant une coalition pour présenter un front uni face aux candidats du gouvernement. Cela étant dit, comme vous l'avez souligné...
Mais elle n'a pas réussi l'unité avant le premier tour, elle peut la réussir avant le second.
On verra ce qui se passera donc dans les tractations qui auront lieu dans les prochains jours. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a une volonté politique justement de la part de l'opposition de mettre fin à ce cycle de Correa de 10 années de révolution citoyenne, comme elle est appelée par l'actuel président. Et du côté du gouvernement, il y a une volonté très ferme, justement, pour faire mentir
les pronostics,
et surtout pour donner un cap pour la gauche en Amérique latine.
Lénine Moreno, lui, a fait le plein de voix au premier tour. Où peut-il aller en chercher davantage s'il est contraint au second tour jeudi prochain ?
Je pense qu'il devrait aller du côté de Quito, parce que vous savez, l'Équateur est un pays très spécial dans le sens où il y a une très claire distinction entre l'électorat de la côte et l'électorat de la montagne. Et la révolution politique de Correa, sur le plan de la géographie électorale, c'est qu'il a mis fin justement à cette scission du pays entre d'un côté la côte et de l'autre côté la montagne. Lui étant originaire de la ville côtière par excellence, Guayaquil, il a réussi justement à s'implanter politiquement à Quito. Le fait inédit de ce premier tour, c'est que paradoxalement, Lénine Moreno a fait le plein des voix à Guayaquil, alors que à Quito, donc là où on s'attendait à ce qu'il fasse le plein de voix, c'est là où il y a eu en quelque sorte un déficit.
Donc il faudrait qu'il se tourne à nouveau vers la capitale et qu'il parle aux habitants de la capitale.
Un, et deux, il y a un candidat, Paco Moncayo, qui est arrivé en cinquième position et qui, lui, vient du parti de gauche démocratique, donc un parti de gauche non coréiste, qui a été maire de la capitale, qui a fait le plein de voix à Quito et qui a vraisemblablement pas envie de voter pour l'opposition. Donc il me semble qu'il y a là
Peut-être une ressource pour Lénine Moreno. Merci beaucoup Gaspard Estrada d'avoir participé à cette émission. Directeur exécutif de l'OPALC, Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Décryptage avec Éléonore Krenik à la réalisation ce soir, Thibaut Marquand. L'émission est à retrouver sur RFI.fr. Vos commentaires, vos réactions sur Facebook et Twitter. Dans 10 minutes, le débat du jour. Les politiques doivent-ils s'emparer du bilan de la colonisation ? À tout de suite.